Dum dum da dum, dum dum da dum.
Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, alors que les premières neiges sont déjà présentes sur les sommets de notre département, ce numéro de décembre de Loire Mag, le podcast, fait le point sur la viabilité de nos routes départementales. En ces périodes de grand froid, il sera aussi question de l'asile de nuit à Saint-Étienne, plus que jamais au service des personnes à la rue. Et puis, c'est aussi l'époque des cadeaux de Noël. Nous vous ferons découvrir la savonnerie Betty MJ, une entreprise artisanale montbrisonnaise qui monte. Mais avant, retour du dossier sur le logement dans la Loire.
Loire Mag, le dossier.
Le mois dernier, nous avons eu avec Fabienne Perrin, vice-présidente au conseil départemental, une revue un peu générale sur le logement social dans la Loire. Ce mois de décembre, je vous propose de pousser la porte des Maisons de Siméon, une entreprise ligérienne qui conçoit des maisons évolutives et modulables. Et ce sont trois associés, Sébastien Coas, gestionnaire, Bernard Rivoli, architecte et Philippe Moine, designer, qui en sont à l'origine. C'est ce dernier qui revient sur le concept tout à fait unique de ces habitats qui évoluent au rythme notamment de l'âge de la personne qui l'habite.
Ces maisons sont évolutives et modulables. Aujourd'hui, sur le territoire, nous avons tout. Nous avons la télémédecine, nous avons le maintien à domicile, nous avons le service à la personne, sauf que nous n'avons pas le logement. Donc en fait, nous sommes dans ce segment de marché entre l'habitation privée et l'EHPAD. Donc nous avons imaginé ces maisons qui rendent la vie plus facile à ces personnes-là. Mais notre leitmotiv est le design pour tous. Donc quand c'est plus facile pour quelqu'un de 90 ans, c'est aussi plus facile pour un enfant qui a 6 ans pour attraper quelque chose qui est à 2 mètres de hauteur.
Il n'y a pas que le fait de vouloir éviter l'accident. Il y a tout simplement, entre guillemets, le confort.
Alors le confort, il est multiple. Le confort, il peut être visuel, puisque ce sont des maisons qui sont très éclairées. Elles ont des baies vitrées, elles sont bioclimatiques. Elles sont énergie passive. On a un coût de chauffage qui est de 150 euros par an. C'est un concept qui est innovant, puisqu'on prend l'humain et l'usager dans toute sa globalité et on va développer des services autour pour rendre la vie plus facile. Nous avons imaginé le Club Siméon, où les occupants peuvent adhérer à ce club et ont droit à des services. Tout d'abord, on va venir visiter les occupants une à deux fois par an avec un ergothérapeute et un designer pour faire un petit peu l'état des lieux de la maison en fonction de la personne. Et on va venir faire évoluer la maison en fonction des besoins de la personne. L'adhérent au Club de Siméon va pouvoir bénéficier des produits innovants. Donc on a parlé de l'armoire carousel.
Donc une armoire qui tourne, j'imagine.
Alors c'est une armoire qui tourne et qui permet aux affaires de venir à la hauteur qu'on désire. C'est-à-dire qu'on attrape nos affaires à un mètre de hauteur et on n'a plus besoin d'un escabeau pour aller chercher quelque chose plus haut. Et lors d'un atelier, on s'est rendu compte que les infirmières, les aidants, quand on fait la toilette d'une personne âgée, quelquefois il manque un linge, il manque un maillot de corps. Et donc le fait que l'armoire soit rotative, eh bien, on va avoir accès de la salle de bain à tous les effets personnels et le linge de corps qu'une infirmière a besoin.
Finissons d'évoquer l'intérieur de cette maison. La salle de bain, c'est une des pièces qui a été aménagée depuis longtemps, justement pour s'adapter aux personnes âgées. Qu'est-ce que vous y avez apporté, vous, dans ces maisons de Siméon ?
La salle de bain, effectivement, est un sujet qui est une des préoccupations essentielles des seniors. Ça, on n'a rien inventé, mais on a évidemment une douche à l'italienne. On a équipé ces douches de barres de maintien, de sièges de douche, qui nous ont été gracieusement offerts par la société Godonier, qui est le leader français du mobilier pour ce type de population. Nous avons un plan vase qui va se régler en hauteur, donc qui rend service à une personne quand elle est fatiguée le matin de pouvoir faire sa toilette assise.
Un plan de travail aussi qui bouge au niveau de la cuisine, même chose pour régler la hauteur.
Voilà, pour la cuisine, nous avons un plan de cuisine qui va se régler en hauteur. On allie à la fois le côté médical, le côté utilisateur et le côté usage.
Au niveau éclairage, on a parlé de baies. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont conçues en termes de luminaire ?
Alors en termes de luminaire, nous avons, on appelle un profil multifonction qui permet d'être éclairé non seulement en partie haute, donc avec des LED, d'avoir un éclairage de la maison, un éclairage on va dire traditionnel, mais aussi en partie basse, un éclairage qui sert de chemin lumineux entre la chambre et la salle de bain, puisqu'on sait que c'est le parcours le plus dangereux pour une personne âgée quand elle se lève la nuit.
Et ces maisons, je crois qu'il y a T2, T3, ça représente quelle surface et quelle fourchette de prix ?
Alors aujourd'hui, nous avons deux types de logements. Le T3, qui est à 60 mètres carrés, et on situe entre 160 et 170 000 euros. Et nous avons le T2, qui est à environ 48 mètres carrés, et là on situe à 140 000 euros.
Des maisons de plein pied, bien sûr.
Alors effectivement, le positionnement de ces maisons est stratégique dans l'implantation. Si on prend les cas existants de Mably de Riorges, nous sommes implantés à côté d'un Intermarché, à côté d'une pharmacie, à côté d'infirmiers et de médecins. Donc un positionnement stratégique pour que les personnes puissent sortir et aient les commodités de la vie de tous les jours à proximité.
Quand vous vendez une maison, vous vendez du confort. Qu'est-ce que vous vendez, Philippe Moine ?
Nous vendons avant tout de l'indépendance. De l'indépendance à ces personnes pour qu'elles puissent rester le plus longtemps possible autonomes chez elles. C'est la préoccupation du designer et de la société, les maisons de Siméon.
Et ce nouveau type d'habitation, les maisons de Siméon, est en train de voir le jour à Riorges, dans le quartier du Pontet. La société lance en effet, ce mois de janvier, la construction de 10 maisons de 54 à 90 mètres carrés.
Loire Mag, visage de la Loire.
L'hiver est là, la nuit tombe tôt et le crépuscule est froid. Pour les personnes dormant dans la rue, ces conditions difficiles s'ajoutent à une vie déjà rude. Alors pour les aider, un établissement les accueille tout au long de l'année. L'asile de nuit, installé à Saint-Étienne. Partons à la découverte de cette structure pas comme les autres, avec Delphine Laurent, directrice de l'asile de nuit, ainsi que Valérie Aubry, chef de service de l'asile de nuit. Elles sont au micro de Lucas Laubert.
Pour les gens qui ne connaissent absolument pas, comment on peut l'expliquer en quelques mots ce que c'est l'asile de nuit ?
En quelques mots, l'asile de nuit, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui est présente depuis très longtemps sur le territoire stéphanois, depuis 1886 exactement, qui a été créée par des personnes qui s'inquiétaient du sort des personnes à la rue et qui aujourd'hui, on peut le dire, fait vraiment partie des associations phares du territoire stéphanois. C'est une association qui fait partie aussi d'un groupement qui s'appelle Solidarité Hébergement Logement avec Solia Loire Puy de Dôme, ce qui explique que je dirige les deux associations.
Comment elles sont aidées, ces personnes à la rue ?
Ces personnes, elles sont aidées parce qu'elles sont accueillies à l'asile de nuit. Accueillies, ça veut dire être hébergées, avoir un toit. Hébergés, nourris et surtout, j'insiste, accompagnés, puisque nous avons une équipe de travailleurs sociaux qui est à pied d'œuvre pour pouvoir justement faire en sorte que ces personnes puissent ouvrir des droits et puis rebondir sur une solution qui soit plus pérenne.
Cet accompagnement, il se concrétise comment ? Comment vous travaillez au quotidien pour les accompagner, Valérie Aubry ?
En fait, quand les personnes sont orientées à l'asile de nuit, elles sont accueillies par un travailleur social, présent sur l'équipe, présent sur la structure. Au cours de ce premier entretien d'accueil, on explique à la personne le fonctionnement de l'asile de nuit. On lui dit comment ça va se passer, les horaires de repas, le règlement intérieur. Ensuite, la personne est mise dans une chambre qui est partagée aujourd'hui, il y a deux ou trois personnes par chambre.
Vous disposez de combien de chambres ?
Alors, il y a 36 places en urgence, 19 places en insertion et 12 lits halte soins santé.
Vous parlez d'urgence, d'insertion, c'est quoi les différences ?
Alors, sur l'urgence, les gens sont envoyés par le 115, ils sont orientés par le 115 pour des gens qui sont à la rue, femmes ou hommes. Ils sont orientés vers notre structure lorsqu'on a de la place. Donc là, c'est pour des gens qui n'ont pas d'hébergement, qui n'ont pas de logement et qui ont besoin d'être hébergés. Et donc l'accompagnement qui se fait en urgence, ça va être l'ouverture de droits, le retour vers le soin, toutes les démarches administratives. Sur l'urgence, il y a trois travailleurs sociaux qui sont spécifiquement détachés pour travailler sur l'urgence, pour accueillir donc les hommes et les femmes. Il y a un étage homme, un étage femme. L'accompagnement sur les dispositifs insertion, les orientations se font par le SIAO, insertion, où là, l'accompagnement éducatif se fait sur une plus longue durée et se fait par deux travailleurs sociaux qui sont aussi détachés pour accompagner les gens. Donc c'est avec des personnes pour lesquelles l'accompagnement va être très long. sur les mêmes missions, si l'on veut, mais principalement l'accessibilité vers un logement, alors adapté ou un logement de droit commun, mais et pareil, sur de l'ouverture de droit, mais c'est un accompagnement plus long. Et le troisième pôle, c'est les liens Halte Soins Santé. Les liens Halte Soins Santé, il y a un travailleur social qui est détaché sur ce dispositif-là. Il y a des passages infirmiers tous les jours, matin et soir. Il y a un médecin qui coordonne le dispositif, qui n'est pas là tout le temps, mais qui coordonne. Et là, ce sont pour des personnes qui sont orientées par l'hôpital ou la PASS, pour lesquelles il y a besoin d'un soin de suite, ou des gens qui sont dialysés, qui ont des soucis de santé, qui ne leur permettent pas d'être hébergés sur une chambre classique.
L'asile de nuit, comment c'est financé ?
Alors, l'asile de nuit est financé par des institutions, des collectivités qui effectivement sont là pour nous soutenir financièrement sur tous les dispositifs. On a l'État qui intervient sur les dispositifs d'urgence, d'insertion et de lits Halte Soins Santé. Alors l'État sur les lits Halte Soins Santé, c'est via l'ARS, hein, l'Agence Régionale de Santé. On a aussi une forte participation de la ville de Saint-Étienne et une participation qui est absolument indispensable à la vie de notre établissement, hein. Et puis aussi un financement du département qui vient aussi équilibrer, hein, le budget de cet établissement. Et puis, il faut le souligner également, des financements de dons de personnes privées. Et les dons des particuliers sont vraiment destinés à mettre en place des actions très particulières. Voilà, on les cible, hein, volontairement, parce que je pense que c'est important pour les donateurs de savoir que leur don va servir à acheter les bûches pour le repas de Noël, décorer justement l'établissement, faire une animation particulière, une sortie, etc.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Dès le mois de novembre et jusqu'à fin mars, le dispositif de viabilité hivernale est mis en place dans le département de la Loire. Nous avons rencontré Jérémy Lacroix, vice-président du département Route Mobilité, qui gère toutes les routes départementales.
On a à peu près 300 agents à l'année qui sont mobilisés pour la viabilité hivernale, qui sont là pour à la fois vérifier l'état du réseau, et puis déclencher les interventions si nécessaire en cas justement de mauvaises conditions climatiques. Nous, on encourage depuis de nombreuses années tous les Ligériens qui font de la route de s'équiper. Ça évite aussi d'avoir des blocages des fois sur le réseau. Et si vous voulez, pour permettre aux agents de pouvoir avancer et déneiger, il faut que chacun puisse s'équiper du mieux possible et de rester vigilant. Alors, une grande majorité, je dirais, était déjà équipée. Hein, ceux qui font de la route régulièrement sont équipés, hein, maintenant. On est en train d'avoir une transition aussi, je pense, sur les équipements pneumatiques. À mon avis, à l'avenir, tout le monde sera équipé de pneus 4 saisons, ce qui réglera justement ces histoires d'arrêtés. Et on sera tous parés pour pouvoir affronter l'hiver. Je crois que les forces de l'ordre vont faire preuve de pédagogie et non pas de répression. Et je trouve ça très bien. Parce que c'est vrai que cet arrêté, il est tombé fin septembre pour une application début novembre. Il faut faire preuve de pédagogie quand on impose ça. C'est quand même un investissement qui est lourd, hein. Acheter 4 pneus, ce n'est pas rien. C'est plusieurs centaines d'euros. C'est pour ça aussi qu'on a souhaité, nous, insister auprès des services de la préfecture pour ne pas mettre l'ensemble du département frappé de l'arrêté. Je pense que la barre des 600 mètres d'altitude, elle me paraît tout à fait raisonnable. Ça aurait été quand même perturbant d'imposer, on va dire, un équipement obligatoire sur des gens qui habitent la plaine et qui font simplement leurs courses autour de leur habitation. Je pense que c'était inapproprié.
Les équipes sont prêtes, tout est rodé pour affronter l'hiver. Il y a des innovations qui se mettent en place, par exemple pour aider aussi les techniciens qui sont sur le terrain, avec des capteurs notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça, Jérémy Lacroix ?
Oui, alors là aussi, innovation pour cette année, mise en place de capteurs donc sur le site de Noir Étable, où on a souhaité rentrer sur ce que j'appelle la route 2.0, la route de l'avenir, qui va nous aider justement à mieux intervenir et mieux cibler nos interventions. En gros, pour faire simple, c'est un capteur qui est au sol, qui permet d'avoir la température, le point de rosée et aussi l'hydrométrie. Alors, ces données-là, on pouvait les avoir avant, mais il fallait qu'il y ait un agent qui se déplace sur le terrain, vraiment physiquement, et qui prenne des appareils pour contrôler en tout cas ces données. Maintenant, à partir d'un smartphone ou en tout cas d'un ordinateur, on pourra avoir ces données. Si le test est concluant, on va pouvoir développer et amplifier, on va dire, c'est l'ensemble de la mise en place de ces capteurs sur l'ensemble du réseau départemental. Il y a des capteurs qui sont dans le sol et puis il y a des capteurs qui sont sur des poteaux et qui vont faire une prise de lecture sur l'état de la chaussée. On peut aussi imaginer demain peut-être avoir quelques webcams pour notre propre compte pour pouvoir vérifier l'état des routes en temps réel. Ce qui nous permet, si vous voulez, de bien être réactif. Nos agents, ils partent en intervention à 4h30 le matin. Mais pour les faire partir, on a une première patrouille qui fait le tour des routes à 3h30 du matin. Si on a les données qui sont facilement lisibles, on peut déclencher l'intervention beaucoup plus rapidement et ça évite à des agents d'aller faire le tour, en tout cas des circuits, tout de suite sur les routes. On ne connaît plus, hein, je dirais, les gros hivers qu'on a pu connaître par le passé. Par contre, on a des pics et des effets climatiques en fait assez impressionnants. On en a eu d'ailleurs dans le Pila au mois de mai, il y a 2 ans, avec des congères, etc., où là, il faut remettre en service, on va dire, l'ensemble des équipements. Et du coup, ben, c'est vrai que toutes ces interventions sont nécessaires aujourd'hui pour assurer cette viabilité hivernale. On est vigilant tous les jours, on essaye d'être réactif en tout cas quand il y a des besoins et on est capable aussi de renforcer nos équipes. On a eu des congères de près de 6 mètres dans le Pila il y a 2 ans. Hein. Donc derrière, c'est une intervention qui est lourde parce qu'il faut des engins assez lourds. C'est plus la lame de déneigement qui peut pousser 6 mètres de neige. Le site inforoute42.fr est un site qui est ouvert à tous, qui permet de connaître l'état des routes en temps réel pratiquement, puisqu'il est géré directement par le PC Route du département. Et sur ce site également, on a accès au site de nos voisins. Donc il suffit d'être sur le site de la Loire, on clique à gauche ou à droite en fonction des départements limitrophes, et on peut connaître aussi très facilement l'état des routes de nos voisins, y compris ceux de la Dire Centre-Est, hein, donc de RN88 à 47, etc.
Et comme la neige et le verglas n'ont pas de frontières, le département de la Loire a signé une convention de partenariat hiver avec cette année le Puy-de-Dôme, mais aussi la Haute-Loire ou le Rhône et plus largement tous les départements limitrophes, de façon à franchir la période blanche sans encombre sur les routes.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Et on termine cette émission hivernale avec des possibles cadeaux pour Noël très proche maintenant. Il s'agit de cosmétiques solides, naturels, certifiés bio et fabriqués à la main dans la Loire. Et oui, c'est possible. C'est à Montbrison que Betty MJ a vu le jour. Des savons au lait de chèvre ou spécial randonneur, c'est une partie de la gamme que vous allez découvrir dans ce reportage. Frédéric Genest, gérant de Betty MJ, est au micro de Clément Bonsignor.
On n'utilise que des produits naturels et bio. On a une gamme assez variée, des savons classiques. Hein. On se veut aussi local sur certains types de produits. On a un savon au lait de chèvre, par exemple. Alors, petite histoire, c'est qu'ils nous amènent en fait tous les samedis matins sur le marché de Montbrison notre lait, puisqu'ils vendent également son fromage de chèvre sur le marché de Montbrison. Voilà.
Sur le plus beau marché de France. Donc, vous vous approvisionnez même ici.
Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Toute une gamme autour des savons également, puisqu'on propose également des déodorants solides, des shampoings, des chantilly capillaires, des soins à cheveux, des crèmes hydratantes. Voilà, toute une gamme.
Une savonnerie artisanale, bien que ce soit artisanal, ça ne s'invente pas. Il y a des procédures. Et ben, c'est de l'hygiène finalement.
En fait, un laboratoire de fabrication doit être validé par l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé. Et il faut savoir qu'également, chacun de nos produits est validé par un toxicologue avant de pouvoir en commercialiser. Voilà.
Si on les détaille un peu, on a compris qu'ils étaient tous faits ici, à Montbrison, au cœur du forêt. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme senteur? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Je vois par exemple la barbe ou les savons soins.
Alors on a les savons classiques où on a voulu différencier en fait 3 parfums différents. On en a un sans huile essentielle qui conviendra pour tout type de personnes, les peaux les plus fragiles, les plus sèches, bébés, femmes enceintes. On a également le forêt, huile essentielle de lavande et de thym. Et après, on a le marino qui est au patchouli géranium et argile rose au niveau de la couleur. Pour les autres, on a voulu être minimaliste, donc un seul produit pour chaque fonction. On a un savon exfoliant, on a un savon masque visage pour traiter les problèmes de peau type acné, points noirs, eczéma, psoriasis. On a un savon à barbe, on a un seul shampoing solide. On a également un 2-en-1 qui s'appelle le randonneur qui veut qu'en fait on mette dedans une huile spéciale qui est de l'huile de Nîmes qui est répulsive pour tout ce qui est tiques, puces, les poux, moustiques. Voilà, d'où le nom randonneur. On a également un savon ménager, un seul, mais multi-usage. Donc non seulement il va être un détachant pour le tissu, mais également va très bien nettoyer les plaques de cuisson, plan de travail, la vaisselle, etc. Et on a même pensé à nos amis les bêtes, puisque les chiens également ont leur shampoing. Voilà.
Tous ces produits, est-ce qu'on les façonne de la même manière? Déjà, peut-être commençons par le tout début. Comment on les imagine?
En fait, ma compagne qui fabrique en fait les produits, ça fait une dizaine d'années quand même qu'elle fabriquait à la base ses propres savons. Donc elle avait une expérience quand même dans le domaine. Mais après, ça passe quand même par tout un tas de formations. On ne vient pas savonnier comme ça du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup de choses à connaître, tant au niveau des huiles essentielles qui apportent certaines choses, qu'au niveau des huiles végétales et beurres végétaux. À la base, on se veut propre pour nous, mais propre pour la planète aussi. On a fait le choix dans nos produits de ne pas mettre d'huile de palme pour ne pas participer à la déforestation, tout simplement. Mais par contre, tous nos savons vont avoir une base de karité qui vont être nourrissants pour le corps.
C'est à peu près tout sur la même base, si je vois les savons doux, les savons soins, le shampoing, et c'est dans les huiles essentielles que ça varie ?
Pas que dans les huiles essentielles. En fait, le procédé de fabrication pour un savon reste la même base. Après, ce qui va être différent, ça va être pour tous les cosmétiques que l'on fait autour. On a une chantilly capillaire qui se fabrique exactement comme une chantilly de cuisine, hein, en fait, hein, c'est tout bête. Pareil, des déodorants solides ou stick à lèvres, baume à lèvres vont être fabriqués sur le même principe, mais chaque produit va être fabriqué différemment. Les savons vont être fabriqués de la même façon, les déodorants vont être fabriqués de la même façon. Voilà, mais chaque produit a sa propre fonction et son propre mode de fabrication.
Là, on est évidemment sur du savon, on va être presque dans le zéro déchet, évidemment. La savonnerie artisanale, par rapport aux grands groupes qu'on connaît, justement, et qu'on va retrouver dans les centres commerciaux, on se base sur quel ordre de prix, pour donner une idée ?
Alors, nos savons, en fait, varient suivant l'utilisation. Les savons classiques sont aux alentours de 6 euros. Après, on a forcément des savons qui vont coûter un peu plus cher suivant l'utilisation. Un masque visage qui vient traiter des problèmes de peau s'élève aux alentours de 13,90 €. Ça reste quelque chose de très raisonnable si on peut comparer à des grandes marques qui existent au jour d'aujourd'hui où on passe du simple au double, hein, par rapport à ce produit-là, par exemple.
Et tous ces produits-là, vous êtes livrables. Allez, on parle à nos auditeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc on peut les livrer partout, finalement, si on se rend sur votre site btmj.fr.
On livre partout en France, mais également à l'étranger, puisqu'on a une très bonne clientèle belge, en fait, qui nous commande énormément de produits sur notre site.
On va vous retrouver, évidemment, sur le site internet btmj.fr, qui est plus un site marchand. Si on veut découvrir vos produits, plutôt Instagram.
Alors Instagram, voilà, on va mettre en avant plus nos produits. On a également les retours clients. Et sur notre page Facebook, ce sera plus de la communication sur des événements à venir.
Voilà, cette émission, la dernière de l'année 2021 pour Loiremag le podcast est finie. On vous souhaite évidemment un très bon Noël. Commencez bien l'année, prenez soin de vous et évidemment au mois de janvier. Au revoir.
Loiremag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.